5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Les chemins de l'espace, c'est toute l'actualité du ciel, c'est tous les mois, c'est proposé par l'association de l'astronomie du Velay, le groupe Orion. Et avec nous, Jean-Michel Vialil, spécialiste de la conquête spatiale.
Bonjour.
Et alors, aujourd'hui, Jean-Michel, nous allons évoquer d'abord des nouvelles de Thomas Pesquet, hein, qui travaille beaucoup. On en parle un peu moins que le mois dernier, lors du lancement, mais il travaille beaucoup. On va passer en revue quelques-unes de ses expériences. Ensuite, nous ferons un petit bilan de tous les lancements. Ils sont multiples et nombreux en 2016. Et puis, on terminera l'émission en éclairant un petit peu ce qui peut nous arriver en 2017. Alors, Thomas Pesquet, à bord de l'ISS, quoi de neuf ?
Eh bien, beaucoup de choses, puisque Thomas Pesquet poursuit sa mission. Il a passé le réveillon dans la station avec ses collègues. On l'avait dit le mois dernier, avec des menus préparés par Alain Ducasse et Thierry Marx. Hein.
Alors, l'histoire ne nous dit pas un petit peu comment s'est passé le réveillon.
Il a communiqué son menu, hein, donc en référence à sa famille et tout ça. Mais il a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook.
Alors, il communique beaucoup, Thomas Pesquet. C'est vraiment un homme de communication, avec un petit peu, bon, avec l'ensemble du territoire, mais aussi en particulier avec les jeunes et avec les scolaires.
Voilà, donc avec des lycées de français, donc des contacts lorsque la station spatiale passe sur la France. Donc tout ça, c'est des programmes qui sont longs à préparer, il y a 2 ans de préparation, et puis le contact va durer entre 5 et 6 minutes.
Alors si une école de Haute-Loire ou d'ailleurs souhaite effectivement monter une opération avec Thomas Pesquet, comment ça se passe ?
Contactez la NASA, contactez un site de radioamateur qui s'appelle ARIS, un ARIS international qui va relayer un petit peu tout ça, recueillir toutes les informations, monter un dossier, ça va prendre presque 2 ans de travail. Et si dans 2 ans, il y a un astronaute dans la station qui parle français, on pourra avoir ce contact.
Voilà, le petit conseil pour nos enseignants, c'est que si vous souhaitez effectivement savoir un peu plus, vous pouvez contacter le groupe Orion et Jean-Michel en particulier. Alors, il y a aussi un certain nombre d'expériences qui sont menées à bord. Donc, on en verra un certain nombre dans le cadre de sa mission Proxima. Alors, un petit mot sur les missions en particulier. Pourquoi celle-ci s'appelle Proxima en l'occurrence ?
Alors, c'est chaque astronaute donc donne un titre à sa mission. Alors, pour cette mission Proxima, ça a été un appel lancé par l'ESA, donc à tous les gens qui voulaient faire une proposition. Et donc c'est un jeune du Sud-Ouest, hein, un jeune de 14 ans qui avait désigné cette mission Proxima, qui est l'étoile donc Proxima du Centaure, hein,
qui est donc l'étoile la plus proche de nous.
De nous, voilà. Et donc c'est lui qui a été choisi. Donc ça a plu à Thomas Pesquet et ça a été retenu.
Et puis, la vie à bord de l'ISS, bien, on vient de passer effectivement les fêtes de Noël. Comment ça s'est passé
Une petite anecdote marrante, parce que chaque année, il y a un sapin de Noël dans la station. Bien sûr, pas un sapin coupé sur Terre et monté là-haut, c'est un sapin plastique. Hein. Il est rangé. Et là, les astronautes à Noël n'ont pas trouvé le sapin. Ils ont trouvé les décorations, mais ils n'ont pas trouvé le sapin. Alors, il faut dire que la station spatiale, c'est quand même un gros monument. Hein. C'est immense, il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de rangements. Et il y a beaucoup d'étiquettes aussi, mais là,
donc pas de sapin, mais côté réveillon,
ça s'est bien passé.
Côté gamelle, c'était parfait.
Voilà.
On rappelle que c'est Ducasse qui a préparé.
Et Thierry Marx.
Et Thierry Marx qui ont préparé
les menus. Voilà.
Voilà, France, patrimoine français oblige. Alors, il y a maintenant le travail sérieux, on va dire, les expériences. Et en particulier, on rappelle que dans cette émission, chaque mois, on présentera succinctement 3 expériences particulières qui touchent aux médicaments. médical.
Parmi les nombreuses, voilà.
Parmi les nombreuses. Alors, il n'y a pas que des expériences qui touchent au médical, mais on a choisi effectivement de vous parler de celle-ci. Donc, qu'est-ce que l'on peut évoquer comme expérience ? Alors, j'ai noté qu'il y avait effectivement une expérience, par exemple, sur la mesure des doses de radiation. Donc, ce que l'on pouvait effectivement prendre, entre guillemets, comme radiation quand on est dans l'espace.
Ah, tout à fait.
Il y avait aussi une expérience qui concerne les problèmes d'atrophie musculaire et de cartilage également, donc avec des besoins de gymnastique en l'occurrence. Et puis aussi une autre expérience sur l'horloge biologique, comment on se repose effectivement à bord de l'ISS. Alors, pour commencer, le problème des radiations. C'est quoi une radiation d'abord ?
Vous savez que lorsqu'on quitte... On va prendre un exemple tout simple. L'été, lorsque vous êtes au soleil...
Ça bronze.
Les UV, ils chauffent. Alors nous avons quand même notre atmosphère qui nous arrête beaucoup d'UV. Hein, mais si on est trop au soleil, on va brûler.
Donc les mêmes radiations, si on n'est pas sur la plage, derrière un certain, même un ciel bleu, enfin derrière une atmosphère quand même un peu importante, dans l'espace, il y en a davantage, il est plus...
On sort de nos 100 km d'atmosphère, oui. Hein, on n'est plus protégé par rien.
Et donc, hein, qu'est-ce que
alors tout passe, hein, les UV, les rayons X, les vents solaires, les rayons cosmiques, tout
donc
ça.
Les rayons X, en fait, ce sont les radios, quand on passe une radio, donc là, ça, on a une radio en permanence.
Oui, parce que lorsqu'on reste 6 mois dans la station, l'équivalent, hein, c'est comme si on passait plusieurs centaines de radios. Donc pendant 6 mois, hein, voilà. Donc nous, on passe une radio ou deux par an ou pas du tout, ou un petit peu plus lorsqu'on est vraiment malade. Il y a des scanners, tout ça. Mais là-haut, ils subissent sans rien que dans leur station, ils subissent beaucoup de radios.
Donc Thomas est actuellement engagé dans une étude qui consiste à mesurer finalement les doses qu'ils reçoivent
des
à
appareils.
Bord de l'ISS ou peut-être aussi quand ils sortent de l'ISS. Hein,
oui, puisque c'est peut-être l'occasion d'en parler, puisqu'il va sortir 13 janvier, il va sortir à l'extérieur, il va faire ce qu'on appelle une EVA. Une EVA, c'est une extravéhiculaire activity, donc activity.
C'est-à-dire qu'il met son scaphandre et il sort du module.
Il sort du module.
Et il se retrouve un petit peu piéton de l'espace.
Exactement.
Voilà. Et est-ce que donc là les risques sont plus
Ils sont plus élevés. Ils sont plus élevés malgré le scaphandre, tout ça. Donc ils ont des scaphandres qui sont excessivement précis. Donc on va mesurer avant, on va mesurer après. Donc comment ça se passe dans l'ISS ? Il y a énormément d'appareillages, des capteurs. Hein. On va tout vérifier. Donc on voit que sur certaines périodes, certains astronautes vont rester une semaine, voire un peu plus, bardés de capteurs. Ils vont dormir avec, ils vont être analysés en permanence. Si on parle sur ces radiations, on va capter toutes les radiations pendant une semaine, par exemple. Et tout ça, c'est analysé au sol pour voir si la vie des astronautes est en danger. Alors, en danger parce qu'ils sont à 400 km au-dessus de nos têtes, c'est pas très très loin. Mais lorsqu'on imagine un futur voyage vers Mars, il faudra prévoir tout ça. Ça va être amplifié.
Donc, cette expérience que l'on appelle DOSIS 3D, je crois, consiste effectivement à procéder à des mesures de plus en plus fines de ces différents types de radiations que l'on peut recevoir à bord ou autour de l'ISS et bien entendu d'étudier ou d'extrapoler un certain nombre de conséquences ou d'effets et peut-être de remettre bien sûr
alors tout
de
ça
parade.
Tout ça progresse parce que ces radiations elles sont utilisées chaque fois qu'il y a eu des astronautes, on a toujours utilisé ça, c'est utilisé aussi, c'est vérifié sur les satellites qu'on a lancés lorsqu'il y a de très très fortes éruptions solaires, ça a pu perturber la vie de nos satellites, donc d'autant plus donc, lorsqu'il y a des êtres humains.
Après les radiations et les risques effectivement pour la santé dans l'espace, une autre menace finalement c'est tout ce qui concerne la perte de masse musculaire,
de tonus, voilà,
masse de tonus et les effets sur les muscles, le squelette, le cartilage. Alors là il y a une expérience qui s'appelle Sarcolab. Alors je ne sais pas si c'est un message, un clin d'œil.
Il n'y a rien à voir
à l'époque du lancement.
Rien à voir avec un homme politique.
En tous les cas, c'est pour répondre à un problème physique et donc c'est ce qui explique aussi ce besoin de gymnastique. plastique, on les voit souvent pédaler, courir.
Sur des tapis roulants. Voilà. Hein, donc tout ça, ça a été monté dans la station, et au fur et à mesure qu'il y a des ravitaillements dans la station, on va monter de nouveaux appareillages, puisque on va dire que la technologie progresse. Hein. Dans la station, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Hein. On repense aussi à la station Mir, où il y avait les premiers appareillages. Donc aujourd'hui, 2017, dans l'ISS, on a des outils performants, on va dire connectés même, hein, qui vont pouvoir relever des mesures très très précises sur l'activité physique, cérébrale de nos astronautes.
Donc cobaye quasiment en permanence.
Cobaye quasiment en permanence, ça fait partie de la mission donc de Thomas Pesquet et de ses collègues, hein, puisque chaque mission, on a vu dans d'autres émissions, la durée des entraînements qui sont très très lents, donc ils ont répété tout ça et pendant 6 mois, ils vont être très très actifs là-dessus. Alors bouger, beaucoup bouger, hein, parce que on a tendance à grandir un petit peu, le corps s'étire. Lorsque nous sommes sur notre bonne vieille Terre, on a nos deux pieds qui reposent par terre, on a le poids de notre corps, on a ce phénomène de masse. Hein. Or que là-haut, cette masse, elle se dissipe, elle est en apesanteur ou en impesanteur, comme on dit souvent. Et donc là, il faut procéder à du tapis roulant, à du travail des muscles, des bras, tout. Et bien sûr, la fluidité du sang. Enfin, il y a énormément d'appareillages, de contrôles sur toute l'activité physique de l'astronaute en orbite.
Donc ces expériences, elles sont menées, elles sont conçues, en tout cas réalisées, suivies par des organismes français.
Français, russes, américains.
On est dans la durée, c'est-à-dire que Thomas Pesquet, après d'autres, poursuit effectivement ce
Tout
type
à fait.
De mesure, d'expérience.
Donc on a une connaissance parfaite de sa biologie, de son mécanisme de fonctionnement sur Terre. Physique, psychologique, tout ça. Donc on le connaît bien. Alors on mesure avant, on mesure pendant, on mesure après.
Est-ce qu'il y a une spécificité française dans ces recherches-là, dans ce programme de Thomas Pesquet? Par exemple, dans celle-ci, dans Sarcolab, est-ce qu'il y a un volet particulièrement français ou exclusivement français ou pas du tout?
Alors, sur cette expérience Sarcolab, précisément, je ne vous le dirai pas parce que ça rentre dans le domaine technique et c'est le domaine vraiment scientifique. Mais je peux vous dire que sur le domaine de l'échographie, par exemple, on a eu des bons résultats sur des astronautes français et étrangers grâce au CNES et avec l'hôpital de Rangueil à Toulouse, donc des mesures qui ont été transmises directement. Voilà. Ça, c'est un programme qui est bien avancé au niveau du médical français.
Alors, Jean-Michel, toutes ces expériences sont fatigantes quand même. Donc, comment on se repose à bord de l'ISS ?
Eh bien, comme sur Terre, il faut manger, dormir, travailler.
Par contre, on est confronté à une alternance jour-nuit épouvantable. La nuit revient tous les
trois quarts d'heure. Hein,
trois quarts d'heure, c'est la nuit.
Voilà. Donc, si vous voulez suivre sur Internet la station en live, il y a des sites qui vous la montrent où elle est. Donc, géographiquement, il y a même des petites vidéos permanentes, puisque sur l'ISS, il y a des caméras extérieures qui filment en permanence. Et aujourd'hui, c'est à la portée du public.
Alors, tous ceux qui aiment bien leur lit pourraient se réjouir, mais en fait, il faut se lever aussi tous les trois quarts d'heure. mais les cosmonautes en général dorment combien de temps et sur
8 heures, hein, c'est prévu sur on va dire en gros les 3-8, hein, 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures d'activité physique aussi. Hein,
D'accord.
Physique, loisir, quoi.
Donc, on reste quand même sur les tranches horaires, les 24 heures
Les 24 heures terrestres, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand même dans la station, lorsqu'il fait les jours, on va dire, lorsqu'ils sont dans l'ombre de la Terre, bon, la station n'est pas éclairée, bien sûr, mais à l'intérieur, si, ils ont la lumière en permanence. Donc, lorsqu'ils vont rentrer dans leur chambre, ils vont se fermer dans leur petit sarcophage, on va dire, avec la fermeture éclair, pour ne pas bouger, et là, ils vont éteindre la lumière. Ils se mettent souvent aussi un masque sur les yeux, donc pour être dans le noir, pour avoir cette impression de nuit.
Alors, mais, et on dort facilement, ou il faut les aider?
Alors, Thomas Pesquet dit qu'il dort bien.
C'est-à-dire naturellement?
Naturellement, il dort bien. Hein. Donc, il y a des astronautes qui ont moins bien dormi ou qui ont bien dormi au début, puis moins bien après. Puis ça, c'est un peu le rythme biologique, on va dire, qu'on a sur Terre, mais qui change là-haut, dans l'espace.
Alors, au niveau des expériences médicales, cette expérience-là qui consiste à réfléchir sur, comment on se repose, comment, j'allais dire, répondre à cette alternance jour-nuit, on parle d'horloge biologique et l'expérience s'appelle circadian rythme. Donc, on est quelque part dans cette fameuse horloge biologique que l'on a tous en nous et qui conditionne un petit peu le sommeil et l'éveil.
On va dire, en gros, c'est l'alternance jour-nuit. Hein, c'est ça l'horloge biologique, cette alternance jour et nuit. Alors, qui est déjà perturbée sur Terre? Parce qu'on le voit bien quand on parle, notamment en astronomie, hein, quand on parle de l'éclairage,
des
de la pollution lumineuse.
De toute nature, ça. Les néons, les boutiques, etc.
Donc, dans la station spatiale, les astronautes, ils en savent, on est 16 alternances de jour et nuit par 24 heures. Donc, on l'a dit, ça fait beaucoup. Même s'ils n'y font pas forcément attention, lorsqu'ils sont en plein soleil, à travers les hublots de la station, ils rentrent de la lumière. Et lorsqu'ils passent dans l'ombre, il n'y a plus cette lumière. Donc c'est quand même assez pénible, ça ils en parlent tous, de cette alternance qui, au début, est surtout perturbante.
Alors, on le voit à travers ces trois expériences, on en évoquera d'autres dans nos prochaines émissions, mais tout ça, bien entendu, a des conséquences sur des retombées, j'allais dire, pour les populations, en termes de santé en particulier.
Alors, en termes de santé, dire que lorsqu'on voit ces expériences qu'on a citées, c'est des expériences qui sont proposées au CNES, au grand public, hein, ce que nous venons de citer, mais il est bien évident que là-dedans, il y a des ingénieurs, il y a des médecins hein, qui travaillent là-dessus, qui recherchent, et ça, bien sûr, c'est du domaine d'après beaucoup plus spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à notre portée, mais là, après, il faut aller fouiller sur des documents, sur des rencontres. Il y a des conférences qui seront données sur le médical dans la station, et bien sûr, après, on rentre dans du domaine très, très pointu de la recherche, s'intéresse plus.
En tout cas, tous ceux parmi nous qui ont du mal à s'endormir ou des problèmes effectivement de sommeil et d'éveil, eh bien, savent que Thomas Pesquet travaille un petit peu.
Travaille un petit peu pour nous parce que les expériences sont faites là-haut. Et après, on peut mettre des programmes d'endormissement sur Terre, sur des gens qui ont de la difficulté à dormir la nuit.
Bien, nous sommes au début de l'année, c'est le temps des bilans. Donc, le bilan 2016 pour en ce qui concerne les lancements de toute nature pendant cette année 2016.
Alors, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup dans les émissions au cours de l'année 2016, hein, sur les émissions de Chemin de l'espace. Donc, le bilan, ça aurait été marqué par 85 lancements. 85, il y en a eu 87 en 2015. Donc, on a placé 197 satellites de toute taille envoyés dans l'espace. On compte simplement 3 échecs.
Oui.
Vous voyez, donc, c'est très, très peu. Donc
en l'occurrence, c'était des échecs de mise en, en station.
Alors, de mise en orbite. Explosion, par exemple, d'un vaisseau Progress, on va dire, de ravitaillement. Donc, il n'y avait pas d'humains. Hein, on va dire que tous les échecs n'ont pas concerné la présence humaine dans l'espace. Donc, ce sont plutôt des... On va dire une manque de peut-être de préparation ou de vérification technique ou de défaillance d'un lanceur.
D'accord, c'est relativement fiable quand même.
C'est relativement fiable.
On peut le dire quand même.
Oui, oui.
Donc 85 lancements, on a lancé quoi? Qui a lancé? Où? Et voilà, qu'est-ce qu'on a lancé en
Alors,
parmi
ces 85? Les puissances spatiales, donc on va toutes les énumérer parce qu'elles sont nombreuses, mais on va citer.
C'est-à-dire les États, les grands États.
Les grands États, l'ESA, l'espace spatial européen, les États-Unis, la Russie, la Chine, hein, voilà, les gros, les poids lourds.
Ouais, d'accord. Et on a lancé quoi? par grande famille, qu'est-ce que on voit, on sait qu'on lance de plus en plus de petits satellites, mais il n'y a pas que des satellites. Alors, en termes de satellites, est-ce qu'il y a d'autres
Alors,
choses?
Alors, il y a des sondes aussi. On a lancé, on va dire qu'il y a deux grandes sondes qui ont été lancées, Osiris-Rex par les USA, qui va aller recueillir des échantillons sur un astéroïde, et bien sûr la mission franco-russe ExoMars, donc avec un semi-échec puisque le module Schiaparelli s'était écrasé sur la planète Mars, mais la sonde tourne autour de la planète et envoie des données, ça fonctionne bien.
Donc c'est Rosetta.
Non, c'est autour de Mars. Rosetta, c'est la fin d'une mission sur la comète Churyumov-Gerasimenko.
Voilà,
gros succès, voilà.
Et qui fait partie du bilan.
Bilan positif pour l'espace spatial européen.
De 2016. Ouais. Alors, il y a aussi beaucoup de lancements qui concernent l'ISS, puisqu'en fait, il faut envoyer un certain nombre d'équipages, dont Thomas Pesquet, bien sûr, oui. Mais aussi le ravitaillement. Donc, il faut y aller, il faut revenir. Ça représente pas mal de lancements. Ça
représente, on va dire, une dizaine de lancements au cours d'une année. Alors, on a l'HTV japonais, c'est un cargo ravitailleur.
HTV, c'est le cargo qui amène le ravitaillement.
Ravitaillement,
Le livreur,
avec le deuxième livreur, c'est le verso, le cargo Progress russe, hein, et puis la capsule Dragon de la société privée SpaceX qui ravitaille aussi, le cargo Cygnus, donc une société privée aussi américaine. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de ravitaillement pour les astronautes en orbite. Alors ravitaillement bien sûr en nourriture, en eau, mais aussi d'appareillage technique, hein, dont tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Voyez,
il faut effectivement un
nouveau programme physique par exemple, une nouvelle machine pour travailler, elle va être montée par ses...
L'ISS aussi qui s'agrandit, c'est un module qui se structure, donc il y a
Thomas Pesquet qui fera son éval le 13 janvier, ça sera pour mettre des modules électriques à l'extérieur de la station.
Voilà, et donc il a fallu monter, etc. Donc ça représente quand même, parmi ces 85 lancements, ça représente quand même une part importante de lancement, là, de toute cette relation avec l'ISS.
Oui.
Voilà, c'est pas négligeable, c'est quoi, c'est 20%, 10%?
On va dire 10%. 10%. La présence humaine.
Donc le reste, c'est essentiellement.
À la grosse louche.
Voilà. Hein, oui. Le reste, c'est effectivement des lancements de satellites. Alors, la plupart de commerciaux, bien entendu.
Commerciaux,
de télécom,
privés, techniques, météo, surveillance des mers, téléphonie, télévision, militaire, hein, bien sûr. Voilà.
Alors Jean-Michel, donc pour 2017 maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'il y a des choses annoncées et
j'ai regardé un petit peu sur les informations qui circulent sur les agences spatiales et tout ce qui est prévu. On va dépasser, si tout se réalise comme prévu, on dépassera certainement en 2017 les 100 lancements.
Les 100 lancements, en 85.
Vous voyez que ça va de plus en plus avec un problème qui se pose, c'est la pollution d'espace, bien sûr.
Oui, alors donc il va falloir peut-être un petit peu nettoyer toute cette zone. Alors, la plupart du temps, beaucoup de matière, on va dire, redescend et se consomme, mais il en reste énormément.
Il en reste. Ce qui est en orbite basse va se consommer très rapidement. Ce qui est en orbite moyenne et orbite haute, non, pas question de le faire redescendre. Hein. Vous avez des satellites qui ont été lancés il y a 40 ans qui tournent toujours. Alors, je pense à un satellite français, donc, enfin, européen, Sentinel, hein, ce réseau Sentinel, donc de satellites. On a été obligé de le rallumer 39 secondes au milieu d'année, là, lors de son lancement, parce qu'il y avait un risque de rencontre à moins de 20 km, donc, d'un débris spatial.
Voilà. Il n'y a pas de voyage interplanétaire programmé en 2017. Il n'y a pas un lancement attendu en 2017 important.
Pour l'instant, donc, les Américains cherchent à aller sur un astéroïde, mais ça ne sera pas sur 2017.
Ça ne sera pas 2017.
Non, la présence de l'homme du côté américain, puisqu'on a dit souvent que les Américains n'ont pas de lanceurs pour envoyer des hommes actuellement, c'est 2018.
D'accord. On rappelle que les lancements d'hommes, c'est sur Soyouz.
Actuellement, Soyouz. Le seul moyen de lancer des hommes, c'est Soyouz. Et bien sûr, avec la Chine aussi, qui a leur propre lanceur.
Hein. Donc, on monte en nombre de lancements et on a aussi tout ce développement commercial de l'espace. avec, au départ, il y a quelques années, ce n'était que des acteurs d'État, c'était des puissances spatiales d'État, et aujourd'hui, le privé qui arrive, donc, alors, c'est la grande tendance.
Exemple, puisque ça aurait dû être lancé, mais il est retardé à cause de la météo, la société SpaceX, qui doit lancer une dizaine de satellites Iridium, donc pour la téléphonie.
Avec des fusées plus petites, plus opérationnelles, moins chères aussi, peut-être.
Oui, donc une fusée très performante, donc la capsule Dragon, la fusée Falcon, donc de la société SpaceX, qui lance, et bien sûr, on va laisser de la concurrence avec Ariane 6.
Eh bien, Michel, on a de quoi dire et raconter à nos auditeurs en 2017.
On aura vraiment de quoi, parce que, vous voyez, il se passe beaucoup de choses au-dessus de nos têtes. Voilà. Souvent, on n'y fait plus attention, hein, mais ça nous concerne tous les jours.
L'histoire de la conquête spatiale continue, et c'est très bien comme ça. Pour terminer, comme chaque mois, une petite recommandation de lecture dans notre rubrique bibliographie. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez à lire ce mois-ci?
Alors écoutez, j'ai trouvé dans ma bibliothèque un livre que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans et qui m'a paru intéressant parce qu'il est très simple, il y a beaucoup de choses. Il s'appelle Voyager dans l'espace, il est aux éditions du CNRS et écrit par Yael Nazé.
Eh bien, bon voyage à tous et au mois prochain. Merci Jean-Michel.
Au mois prochain.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.